Alors on dit quoi?
Hello les amis, c'est Alors on dit quoi, c'est RFI, bienvenue à toutes et à tous. Je suis toujours aussi heureuse de partager le micro avec vous les samedis. Aujourd'hui, je vous propose de parler de sport. Je ne sais pas si vous savez, mais il contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU en matière de santé, d'éducation et de cohésion sociale. Le sport est également un outil diplomatique, un vecteur de paix, d'inclusion. Et ce n'est pas tout. Au sein de l'économie mondiale, ce secteur a un fort potentiel économique qui représente aujourd'hui quelque 2% du PIB mondial, un chiffre qui passe à 0,5% si on le met à l'échelle africaine. Le sport reste donc un enjeu pour le développement du continent. Alors comment faire du sport une nouvelle niche de croissance à travers l'entrepreneuriat? Quel obstacle freine le développement de l'industrie du sport en Afrique? Dans quelques instants, direction le Niger, où le développement du secteur se traduit par la création d'emplois pour les jeunes. Angata, c'est parti!
Alors on dit quoi? Avec Djaran Djaï.
Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, je suis en compagnie de Silver Henri Cissé, journaliste et communicant. Il est également membre du conseil scientifique et d'orientation à programme Histoire, Sport et Citoyenneté Paris 2024. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Silver.
Bonjour, merci à vous.
Alors Silver, dressons un petit tableau. Je sais que c'est difficile, mais on va essayer de le faire en essayant de voir quel est l'impact du sport sur la société africaine aujourd'hui.
Waouh, vous me posez une vaste question, hein. Il est multiple, hein, parce que le sport aujourd'hui est multifactoriel, notamment quand on parle de l'impact du sport. Est-ce qu'on parle de sport professionnel? Est-ce qu'on parle de sport amateur? Est-ce qu'on parle du sport qui est destiné aux seniors? Est-ce qu'on parle aussi, vous allez le traiter, des salles de sport? Vous voyez qu'il y a différents sujets. L'impact, il est réel déjà en termes de santé, parce que ça contribue à l'amélioration de la santé, au bien-être des gens, au bien-être aussi physique et moral. Et ensuite, il y a également un développement économique à travers le sport. C'est-à-dire que s'il est bien mené, s'il est bien fait, s'il est bien construit, s'il est bien pensé, il peut participer au développement économique d'un pays. Parfois, il est mal pensé. Parfois, il est mal conçu.
C'est-à-dire?
Ben, on le voit notamment à travers les Jeux Olympiques, et je pourrais vous le détailler, parce que très souvent, quand on parle, par exemple, des Jeux Olympiques, des grandes manifestations sportives, on parle du déficit qu'ils peuvent entraîner. Alors, là, je voudrais m'arrêter juste un petit instant sur les Jeux Olympiques qui sont très importants, parce que ça vous permet de comprendre et d'illustrer ce que le sport peut procurer. Quand on parle des Jeux Olympiques, très souvent, on parle du déficit des Jeux Olympiques. Mais en fait, il faut bien savoir que pour les Jeux Olympiques, il y a deux structures, toujours pour les Jeux Olympiques. Il y a une structure qui est chargée de l'organisation sportive, l'organisation du spectacle sportif. Cette structure-là, elle est toujours positive. Elle gagne toujours de l'argent. Et ensuite, on a une deuxième structure qui, quant à elle, est chargée de la création des infrastructures qui vont permettre le spectacle sportif. Je vous prends Paris 2024. Nous avons le COJO, donc, qui est dirigé par Tony Estanguet, qui s'occupe de l'organisation des Jeux Olympiques. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la Solideo, qui est chargée de construire les infrastructures. Si on prend cette deuxième structure dans le cadre des Jeux Olympiques, par exemple, d'Athènes, si on pense à cette structure dans le cadre des Jeux Olympiques de Rio, elle est extrêmement déficitaire parce qu'ils ont eu à construire.
Donc parfois on perd de l'argent.
Des autoroutes, des bâtiments, et c'est hors de prix. Parfois, dans des situations où on n'a pas beaucoup de choses à construire, eh bien on s'en sort.
Mais du point de vue africain?
Alors là, pour
à l'échelle de notre continent. Tout à l'heure, je citais des chiffres. Le PIB pour ce secteur, il est 2% au niveau mondial, 0,5% pour l'Afrique. Ce sont des chiffres. Comment décrire cette réalité économique du sport business en Afrique?
Alors là, je vais tout de suite là aussi vous proposer deux choses. Vous prenez ce chiffre-là. Ce chiffre, il n'a pas une réelle réalité. Pourquoi? C'est comme, pour vous donner un exemple, c'est quand on prend par exemple les 4000 milliards d'investissements que Joe Biden propose pour l'instant pour les États-Unis. Qu'est-ce que ça comprend? Est-ce que ça comprend l'investissement pour les autoroutes, les crèches? Est-ce que ça comprend la construction de bâtiments? On n'en sait trop rien. Et quand vous dites les 0,2%, ça comprend tout. Ça comprend également le sport professionnel, ça comprend en fait toutes les parties du sport. En ce qui concerne le continent africain qui nous intéresse, on ne peut pas dire grand-chose parce que pour l'instant, mis à part la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, mis à part la Coupe du Monde de rugby 1995, quelques championnats de sport individuel, et il ne s'est pas passé grand-chose. Le prochain défi, c'est quoi? C'est 2026.
Les Jeux Olympiques de la jeunesse
à Dakar qui sont extrêmement importants. Ce sont 3500 athlètes qui vont arriver dans la ville. Ce sont des investissements massifs. Il faut pas les rater, ces Jeux-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont préfiguratifs peut-être de l'arrivée des Jeux Olympiques d'été sur le continent africain. Ils auront certainement changé.
Est-ce qu'il va être véritablement rentable, ce sport business? Parce qu'on parle effectivement d'infrastructures, d'emplois.
Ça dépend lesquelles. Si vous prenez par exemple la NBA, qui arrive d'ailleurs sur le continent africain, à partir de dimanche, d'ailleurs, puisque c'est dimanche que débute la Basket Africa League, hein, qui est le pendant de la NBA Afrique. La NBA Afrique est une société privée qui n'a qu'un souci, c'est de proposer en fait un spectacle sportif à forte rentabilité. Et connaissant leur savoir-faire, je suis sûr et certain qu'ils vont y arriver. Ensuite, il y a d'autres manifestations sportives. Malheureusement, je ne vois pas pour l'instant la rentabilité. En ce qui concerne les Jeux africains de la jeunesse, on est dans une structuration. C'est-à-dire que d'abord, il y a l'apport du Comité olympique international qui met de l'argent, qui met beaucoup d'argent pour que ces Jeux olympiques se tiennent. Et ensuite, il y a le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, qui quant à lui va structurer cette compétition pour tenir l'équilibre et que ça n'impacte pas économiquement la société sénégalaise et qu'au contraire, ça lui apporte
elle en bénéficie
et une plus-value.
On va voir justement plus en détail ce côté sport business au Niger. Je vous propose d'y aller à Niamey particulièrement où là-bas il y a une partie de ce sport business qui se concrétise à travers l'ouverture de salles de sport. Illustration justement dans ce reportage de notre chère Bouli, c'est la correspondante à Laurent Dicois sur place. Et puis ensuite Sylvain, vous réagirez.
Bonsoir. Habillé en tenue de sport, Mousseline, jeune Nigérien élancé, barbu, de teint foncé, s'apprête à faire de la musculation, son activité sportive quotidienne.
Je vais m'entraîner en fait, je viens régulièrement chaque jour, je m'entraîne, j'essaie d'être régulier au moins 6 fois dans la semaine. Je mets les moyens dans le sport, ça importe peu par rapport à la santé.
Tout comme Mousseline, de plus en plus les Nigériens s'intéressent au sport pour se maintenir en forme. Si pour les pratiquants, c'est un moyen d'entretenir sa santé, pour beaucoup de jeunes, cet engouement des Nigériens pour le sport est une opportunité à saisir pour entreprendre dans le domaine.
Je suis un passionné du sport.
C'est l'exemple de Jalou de Zenou Tanguy, la trentaine. Il a créé en 2019 Omega Fitness Club.
En termes d'investissement, c'est au moins 150 millions. Qui ont été investis pour la réalisation de cette salle parce qu'il fallait ramener du matériel haut de gamme mais surtout qui répond aux normes internationales parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui une salle de sport c'est quand même quelque chose de très sensible. Le matériel utilisé là-bas doit être un matériel certifié, doit être un matériel de qualité pour que les gens puissent faire leur sport dans des conditions de qualité et de sécurité.
Comme dans toute entreprise, les débuts n'ont pas été faciles pour Jalout.
Au début, c'était très difficile. Les premiers mois, les premiers trimestres, c'était très difficile. En tout cas, la première année a été une année de challenge. Donc, à partir de la deuxième année, on a pu quand même commencer à stabiliser une clientèle qui était plus ou moins fidèle. Donc, au fil du temps, les clients satisfaits et la communication que nous faisons et le standing que nous avons quand même maintenu fait en sorte que chaque mois, nous avons un peu plus de clients avec nous.
Aujourd'hui, la salle de sport ne désemplit pas. Parmi les clients, il y a Chris et Greg. Pour mieux s'exercer, ils ont pris un abonnement mensuel.
Eh bien là, en ce moment, je suis en train de travailler les dorsaux. La salle est très bien pour ça. La salle Omega est située en centre-ville, donc c'est l'idéal pour s'y rendre. Une forte convivialité, beaucoup d'appareils qui nous permettent de pouvoir bien s'entraîner. Voilà, tout ceci coûte un abonnement d'environ 40 000 francs le mois.
Alors le sport ici, on a des tarifs préférentiels parce qu'on vient en groupe. Donc on vient à 3-4, on est aux alentours de 150 000 francs CFA, je crois, quelque chose comme ça par mois. C'est intéressant parce que on a un coaching personnalisé avec les coachs présents. Les horaires, la gamme d'horaires est très importante, donc on peut y aller vraiment quand on veut, tous les jours de la semaine. On a accès à des salles de muscu.
Omega Fitness Club emploie plus de 15 jeunes. Coach Abdelwahab est l'un des 5 coachs recrutés pour assurer le coaching.
Et là, je suis le coach principal. Là, la différence entre ici et les autres salles, c'est qu'on a plus de matériel et l'espace. C'est très important l'espace. Ah, le sport, c'est toute ma vie. Je faisais le sport depuis l'âge de 15 ans. J'ai toujours aimé la musculation.
Travailler dans cette salle a un double avantage, selon une des deux réceptionnistes.
Ça me fait plaisir de travailler à Omega Fitness Club parce que là, ça me permet aussi de connaître beaucoup de choses par rapport à le sport. Avant, je ne connaissais rien du sport et puis je ne le pratiquais pas. Et là, cela me permet aussi de pratiquer le sport et de connaître, de faire aussi beaucoup de rencontres ici parce que souvent les clients viennent et on partage et puis on discute parfois, donc c'est ça. J'en bénéficie plus que l'argent, en tout cas plus que le salaire, j'en bénéficie.
Jaloud ne compte pas s'arrêter à ce niveau. Son ambition est d'élargir l'entreprise dans toutes les régions du pays et être le leader de la santé et du bien-être. Le jeune entrepreneur ne manque pas de conseils à l'endroit de ses pairs.
Ce qui n'a jamais un rêve plus grand que soi, donc tant qu'on peut le rêver, c'est qu'on peut le réaliser. Et faites tout pour investir en vous, faites tout pour faire du sport de manière claire, parce que c'est votre allié le long de votre vie.
Faire du sport, parce que c'est notre allié, effectivement, ça fait du bien, vous l'aviez dit tout à l'heure en introduction. Silver, mais quelle analyse vous tirez de ce reportage? Il a raison de se lancer, ce jeune Jaloud Zeynou Tanguy, avec ce Omega Fitness Club à Niamey.
Votre reportage est très riche, hein, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont très très intéressants. Bien sûr qu'il a, il a raison de se lancer, parce que le sport, c'est une richesse. C'est une richesse déjà sur le plan de la santé, mais c'est une richesse aussi sur le plan entrepreneurial. C'est-à-dire qu'il peut réussir, il peut gagner sa vie, il peut bien le faire de manière vertueuse. Mais il faut être très attentif. Tout d'abord, au poids financier d'une salle de sport. On l'a entendu dans le reportage. Il a lourdement investi parce qu'il faut que le matériel soit à la hauteur des attentes des clients.
Il y a un vrai business plan.
Il y a un vrai business plan, mais surtout avec ce matériel-là, il y a aussi l'attente des clients qui aujourd'hui ont un appareil qui s'appelle le smartphone et qui sont au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui sort. Donc, il lui faudra sans cesse investir pour renouveler son matériel. Quant à moi qui vais dans la salle de sport, j'ai une préférence pour ce qu'on appelle le travail en poids de corps. C'est-à-dire que je vais dans les salles de sport sans machine. Les salles de sport qui proposent de travailler uniquement avec son propre poids. Ça nécessite d'avoir une vraie convivialité. Parce que je vais dans une salle, notamment, il y a une vraie convivialité pour les coachs, pour l'ambiance, pour des tas de choses. Mais je suis pas tributeur du matériel. Parce que le gros problème de ces salles aussi, c'est que quand on se trouve dans ces salles avec beaucoup de matériel, eh bien, il y a un côté un peu impersonnel. Et le sport, avant tout, comme on a entendu le reportage des gens qui viennent pour être à 3 à 4, c'est le côté humain qui est très important.
Mais on a aussi le sentiment qu'il y a une tendance avec depuis la Covid, notamment, bien prendre soin de soi, cette tendance bien-être. Est-ce que c'est pas dangereux de surfer sur des tendances? Est-ce que c'est pérenne comme modèle économique?
C'est pérenne si on saisit la bonne tendance. On s'aperçoit aujourd'hui que dans les études de marketing, il y a plusieurs critères qui ressortent. Et il y en a deux ou trois que je trouve intéressants par rapport à la salle de sport. Tout d'abord, il y a le mot communauté qui revient énormément dans les différents échanges qu'on peut observer sur les réseaux sociaux. Le fait de se retrouver ensemble, le fait de se retrouver en groupe après le confinement qu'on a vécu. Il y a un autre ingrédient aussi qu'on retrouve dans ces tendances marketing, il s'agit du bien-être, au sens large, bien-être psychique comme sportif, c'est-à-dire s'occuper de soi. Retrouver le contact avec soi-même, se recentrer, se revertébrer.
Absolument.
Et donc la salle de sport y participe. C'est pour ça que aujourd'hui, rien qu'avec ces deux mots-clés, il y en a d'autres, hein, mais ces deux mots-clés dont je vous donne, qu'on observe sur les réseaux sociaux, dans les tendances marketing, aujourd'hui, on peut prendre la bonne tendance.
Vous parlez des réseaux sociaux, Sylvain Henri-Cisset, ça me fait penser à toutes ces applications worldwide de sport. Est-ce que ça ne va pas concurrencer les salles de sport plutôt physiques? Ce sont ces programmes qu'on nous propose, notamment sur les réseaux sociaux.
Toute petite concurrence. Mais vous savez, moi, je les utilise. Hein. J'utilise, j'ai deux...
Vous faites les deux. Vous allez au sport, on sait que vous prenez bien soin de vous.
Oui.
Et vous les utilisez également chez vous, ces applications.
Et dans la salle
digitales.
De sport aussi.
Et dans
la salle de sport, parce que... Alors, je connais assez bien mon corps et je suis assez prudent. Donc, j'utilise par exemple ces applications pour faire mon sport. Et parfois même, il y a certaines applications, je vais pas au bout du programme en leur disant « Non, je connais mon corps, donc je sais que je dois m'arrêter. »
Oui, mais parce que vous connaissez bien votre corps, vous savez.
Oui, parce que j'ai été, il y a très longtemps, on ne dira pas qu'à l'époque antédiluvienne, j'étais un sportif de haut niveau, que je pratique le sport, que j'ai une connaissance effectivement des différentes phases et des différents paliers qu'il faut franchir et savoir s'arrêter à temps. Là, je méfie surtout des gens, comme on a entendu un reportage qui était vraiment très riche, hein, des gens qui se lancent, comme ça, dans la pratique sportive, sans faire attention, sans savoir la limite qu'il ne faut pas dépasser pour se mettre en danger. Parce que le sport, c'est quelque chose de très bien, et ça participe au bien-être, à la santé, quand c'est de l'activité physique. Mais dès qu'on passe au sport, c'est une activité traumatisante. Et c'est là où il faut faire attention, ne pas tomber dans l'activité traumatisante, comme on peut le voir avec le sport à haute intensité amateur, hein, mais ne pas tomber dans l'activité traumatisante, mais bien rester dans l'activité physique pour le bien-être.
On va justement continuer de parler de bien-être et d'un jeune Ivoirien, Kassoum Touré, qui est entrepreneur dans le domaine du sport, fondateur de Pureté, société de sport et de nutrition. Il va nous expliquer d'ailleurs son projet. Bonjour Kassoum.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va et vous, Kassoum?
Bah écoutez, ça va très bien, comme vous pouvez l'entendre.
Bah, vous souhaitez justement ouvrir une salle de sport très particulière, basée selon vous sur un modèle africain. Alors dites-nous ce que vous entendez par là.
D'accord, comme je disais, j'écoutais d'ailleurs l'émission. Mm-hmm. En fait, pour moi, la nature doit être respectée. Voilà, avoir le trop plein de machines dans une salle, ce n'est pas mauvais.
C'est un peu ce que Silver disait tout à l'heure, effectivement.
Voilà, ce n'est pas vraiment mauvais, mais il faudrait, ce serait intéressant d'avoir une salle qui respecte la nature comme l'être humain devrait respecter la nature. Et moi, pour moi, je trouve qu'en Afrique, on a beaucoup d'outils du quotidien, parce que le sport, pour moi aussi, c'est utiliser tous les mouvements du quotidien pour pouvoir en faire une activité physique.
Est-ce que vous avez un exemple à nous citer, Kassoum, de ces objets qu'on pourrait utiliser pour faire du sport?
Oui, effectivement, j'ai dans mon projet l'ambition de modifier ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire un wotro.
Ah, les pousses-pousses.
Communément, oui, effectivement, appelé pousses-pousses. Mm-hmm. Voilà, que les personnes prennent pour transporter des marchandises dans les marchés et tout. L'utiliser pour travailler tout le corps, par exemple, parce qu'avec ça, on peut travailler le bas du corps, les abdos, le cardio, et si on est ici, il est bien exploité. Je veux dire, c'est à peu près ce genre de mouvement que je veux initier.
Dans votre salle de sport. Mais ce n'est pas simple, j'imagine, d'ouvrir cette salle en Côte d'Ivoire comme vous voulez faire. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui votre projet, Kassoum?
D'accord. Je dirais que les blocages même sont d'ordre sociaux, hein, parce que en fait, les gens ont un modèle de salle qui pour moi doit être amélioré. Et quand on vient avec ce genre de projet, il faut avoir des personnes qui seront intéressées. Parce que la plupart du temps, quand on fait les statistiques, les personnes qui cherchent à aller en salle de sport, c'est pour perdre du poids. Mais ils ont le modèle conventionnel qui est ancré en eux, que c'est par les machines qu'ils pourront atteindre ces objectifs.
Donc beaucoup de pédagogie, j'imagine, à entreprendre lorsque vous allez ouvrir cette salle, Kassoum.
Effectivement.
Merci infiniment d'avoir participé à cette émission, Kassoum. Et puis bon courage dans votre projet, surtout.
Merci bien. Bonne journée à vous.
Ce samedi, dans Alors on dit quoi, nous nous intéressons à l'entrepreneuriat des startups dans l'univers du sport en Afrique. Athlètes et institutions investissent sur notre continent, comme la NBA qui s'installe prochainement sur le continent. Alors vous allez voir aussi qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui innovent également avec des produits et services. Comment concrétiser le potentiel du sport en tant qu'outil de développement? Les réponses dans quelques instants. D'abord, on écoute Beyoncé, Chataouelle et Major Lazer, Already. King already, you know it. Top everything, you know it. King already, you know it. My body so got a king body. Body gon' shine, bling bling body. Calling all the shots, ring ring body. Crown on your head, got a king body. Don't live the king, you a king, you know it. King already, my baby, you know it. Top everything, you know it. King already, you know it. Shine already, it's time already. Line already, it's time already. Shine already, it's time already. The line already, it's time already.
Try to stop it, me say no, no, no. Royalty say don't you, no, no, no. Try to stop it, me say go, 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 go. Bubble up and watch it go, 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 go.
Be ruler, be ruler, yeah. Everybody on the conquer, yeah. Every king be stronger, yeah. King they rule them longer, yeah. Remember who you are, ooh. Real king always be new. Give up your bread, oh. And show your people my love. It's like my ready, I say it's like my ready. It's like not ready, I say it's like not ready. Only you got the remedy, I say you got the remedy. Shine your body, shine your body.
Long live the king, you a king, you know it. King already, you know it. Top everything, you know it. King already, you know it.
Long live the king, you a king, you know it. Stop everything, you know it. Show them the way, you know it. You know it, you know it.
C'était Beyoncé, Chataouelle, Major Lazer, Already.
Alors, on dit quoi?
Et on continue de prendre nos auditeurs en ligne, à l'instar de Bakary Camara. Il a réussi à lier foot et entrepreneuriat. Il est le fondateur de Tip Top, c'est un ancien footballeur qui a lancé un protège tibia connecté, je n'en dis pas plus. On en parle avec lui. Bonjour Bakary.
Bonjour Dara.
Bakary, c'est quoi un protège tibia connecté? Ça sert à quoi? À qui est-ce destiné?
Alors, protège tibia connecté, c'est un... Faut se mettre en fait en situation où tout le monde, lorsqu'on va courir et faire un footing, on aime bien avoir son téléphone accroché au bras pour avoir à la fin sa distance parcourue, sa vitesse, etc.
Toutes ses performances.
Exactement. Mmh. Et ben là, on a imaginé le concept pour les footballeurs, à savoir la technologie qui permet de traquer ces données, mais contenue complètement dans le protège-tibia.
Et c'est voilà, quoi la valeur ajoutée de ce produit, finalement? Et d'ailleurs, ça coûte combien un protège-tibia? Tout simplement, un protège-tibia simple. Après, on rajoutera le fait qu'il soit connecté.
Alors, un protège-tibia simple, on peut en trouver à tous les prix. Hein. Ça peut commencer à 7 € dans la grande distribution, et ça peut monter à des 300 € sur des protège-tibia en carbone, etc. Nous, on est les premiers à avoir fait un protège-tibia connecté qu'on vend 180 €.
Voilà. 180 €. Et dites-moi, vous avez mis de nombreuses années à établir ce produit fini. Depuis 2003, vous travaillez un petit peu dessus jusqu'à sa sortie en 2017. Il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches et développement pour obtenir ce protège-tibia connecté. Une phase importante où vous avez investi combien?
Alors, c'est pas vraiment ça. 2003, c'est vraiment la naissance de la marque Tip Top, donc qui est née avec un produit historique sur une base textile qui servait juste à tenir les protèges tibias. En fait, c'est comme ça qu'on a démarré dans ce marché-là. Mm-hmm. Et la réalité, c'est que le protège tibia connecté, il est né à partir d'une première version de protège tibia standard qu'on a créé, qui coûte entre 30 et 39 €. Mm-hmm. Et donc, on a fait évoluer vers le connecté. Et en réalité, le protège tibia connecté, c'est un peu plus de 3 ans de recherche et développement, donc depuis 2017 environ, et donc qui s'est concrétisé par une industrialisation, une commercialisation, tout début 2020. Et donc tout ça pour un budget autour de 400 000 €, on va dire, de bout en bout environ, quoi.
Et d'où proviennent ces fonds? Comment sont-ils répartis?
Alors, on a procédé à une première levée de fonds en 2019, début 2019. D'ailleurs, moi, j'étais pas encore dans la société. Hein. Mm-hmm. C'était une petite société individuelle où dans laquelle travaillait mon épouse. Et puis je l'ai rejoint en 2019. On a changé les statuts, on a ouvert le capital pour financer cette R&D. Donc on a levé des fonds en accueillant notamment des fonds type région Normandie, où on est. Donc elles sont fonds d'investissement. Et puis une banque aussi qui est rentrée en tant qu'investisseur. Mm-hmm. Et puis un petit réseau de business angels pour terminer le budget.
Ouais. Une grosse structuration qui vous a permis de développer le produit. Aujourd'hui, comment se passent vos finances? Qu'est-ce que vous envisagez de faire en plus pour continuer de développer la marque Tip Top?
Alors, on a fait beaucoup de choses après sur les fonds qu'on a pu avoir. Alors, avec notre fonds de roulement de vente, avec nos produits historiques, etc. Mm-hmm. Donc, on s'est notamment constitué en organisme de formation pour accompagner à la démocratisation de l'usage de ces data auprès du football amateur. Comme je l'ai dit, on s'est structuré, etc. Et puis, continuer aussi dans l'innovation, notamment, continuer aussi à améliorer nos données, la fiabilité, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en toile de fond, on a toujours cette R&D qui est là avec des partenaires technologiques, entreprises du privé, laboratoires universitaires, etc. Et puis là, on s'oriente vers une nouvelle levée de fonds, mais vraiment pour accélérer les ventes.
Vous voulez lever combien, Bakary?
On est sur un million d'euros de levée de fonds.
Un million. De nombreux chiffres, un beau projet, beaucoup de restructuration, des risques à prendre, Silver, une réaction. Vous connaissiez d'ailleurs ces protèges tibia connectés?
J'en avais entendu parler, j'ai vu un ou deux articles sur les protèges tibia connectés, et je félicite Bakary. Non, mais ce qui est intéressant à travers son témoignage, c'est de voir qu'aujourd'hui, pour se lancer en tout cas dans l'industrie du sport, parce que ça dont nous parlons, il ne faut pas s'affranchir des règles du commerce et de la finance. Quand vous entendez Bakary, vous avez un homme d'affaires en face de vous. Et qu'aujourd'hui, il faut sortir de l'idée reçue comme quoi le sport, n'importe qui peut se lancer dedans. Avant de se lancer dans le sport et dans l'industrie du sport, eh bien, il faut connaître les règles du commerce et les savoir-faire justement du monde de la finance, et c'est comme ça que l'on peut réussir. Ce n'est pas parce qu'on a été un ancien sportif ou un ancien président de club qu'on peut se lancer dans l'industrie du sport. Ce qui est différent, ce sont deux choses différentes. Il y a la pratique sportive. Et ensuite, il y a les canaux qui permettent de concevoir et de structurer l'industrie du sport.
Et c'est important de le rappeler parce que tout se passe en étapes, finalement. Une levée de fonds, ça ne se fait pas en 2 jours. Aller convaincre des investisseurs, des banques, des régions, ce n'est pas simple. Alors, bravo, effectivement, Bakary. Et puis, tenez-nous au courant de l'évolution de ce projet. Hein. Merci en tout cas, Bakary, pour
avec
ce témoignage.
Merci à vous.
Alors, on continue de prendre nos auditeurs. Ils sont nombreux. On va essayer de prendre tout le monde aujourd'hui, notamment Shivai, une influenceuse dans le sport. Elle est la fondatrice de InShape with Shiv. Bonjour Shivai, qui nous appelle d'Abidjan.
Bonjour Diarra.
Alors Shiva, et que propose la page Insta InShape with Shiv et surtout à qui?
Alors InShape with Shiv, c'est vraiment une page donc fitness sur Instagram dont la cible est principalement les femmes. Mm-hmm. Et c'est une page sur laquelle je propose des vidéos de sport donc dans lesquelles je fais des démonstrations de 4 exercices qu'on peut reproduire autant de fois que possible. Et sur laquelle je propose également des conseils fitness, on va dire fitness, santé, alimentation, entre autres.
Entre autres, on parle aussi business, vous le savez ici. Vous faites des partenariats avec des marques, des placements de produits dans ces vidéos que vous avez décrites à l'instant. Comment fonctionne ce type de collaboration? Est-ce que c'est plutôt des échanges de produits ou alors c'est une rémunération monétaire? Comment ça fonctionne?
Alors en général, il y a deux cas de figure. Ce sont soit des échanges de produits, donc des produits qu'on nous livre et pour lesquels on nous demande de donner de la visibilité à la marque qui propose les produits en question. Il y a également des placements de produits, que ce soit dans le domaine de la nutrition, tout ce qui est équipement sportif, tenue de sport, c'est très variable. Et donc oui, évidemment, en moyennant un échange monétaire, effectivement.
Et quelle est la stratégie commerciale derrière tout ça pour bien vous vendre, pour bien vous démarquer? Qu'est-ce que les marques, elles, recherchent?
Les marques recherchent de l'originalité parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup
oui, il y en a
de pages
beaucoup.
Fitness sur Instagram, exactement. Donc les pages en général recherchent une efficacité, un taux d'engagement également important. Donc ça, c'est des choses qu'on voit sur les posts qu'on publie. Est-ce que vraiment la communauté est désireuse d'en savoir plus, d'avoir plus de vidéos? C'est vraiment sur ces éléments-là que les marques se basent pour nous approcher en général.
Là, vous avez actuellement 7 mois d'activité. C'est tout nouveau, enfin c'est récent. On va dire, vous avez plus de 6000 abonnés, vous avez plusieurs partenariats qui ont été actés depuis le début de votre activité. Est-ce que c'est un bilan économique? Je veux dire, est-ce que ça vous rapporte du cash suffisamment?
A commencé à me rapporter du cash, oui, il y a quelques mois. Donc le bilan est quand même relativement positif. Après, j'essaye de quand même rendre la page, donner un aspect plus professionnel aux vidéos dont je travaille avec un caméraman, etc. Ce sont des choses quand même qui sont réfléchies. Mais oui, bien sûr, le bilan est positif parce qu'il y a quand même des projets derrière de sortie de guides sportifs alimentaires, des cours collectifs qui vont peut-être se mettre en place dans un futur proche et puis aussi des collaborations avec des lignes de sport. Donc oui, le bilan est positif.
Un bilan positif. Et dites-nous en quelques mots, comment va évoluer ce projet, cette page InShape with Shiv?
Écoutez, si tout va bien, les choses vont évoluer, on va dire. Je pense qu'elles sont sur la bonne voie pour évoluer de façon positive. Moi, j'aimerais un peu dynamiser les choses, peut-être en proposant, je sais pas, je vais dire peut-être une petite. Il faut pas que je m'engage trop également sur ce que je veux faire, mais c'est vrai que dans un futur proche, j'aimerais peut-être mettre en place des applications.
Des applications, c'est ce dont on parlait effectivement, Silver, la digitalisation du sport, on la sent partout en fait.
Ah, mais elle, c'est une réalité, et à écouter votre auditrice, elle est en train de penser à un écosystème, et dans cet écosystème, l'application est incontournable. Inévitable.
Donc vous avez compris, hein, Shiva, il vous l'a dit, Silver, lancez-vous, foncez sur cette application. On va avoir besoin de vous. En tout cas, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Alors, on dit quoi?
Allez, on va prendre cette fois un autre entrepreneur. Il s'agit de Jawad. C'est un ancien sportif de haut niveau et il est également président de la Fédération nationale de Techball. Bonjour, Jawad.
Bonjour.
Jawad, alors moi, je l'avoue, je ne connaissais pas ce concept. Alors, il est très intéressant. J'aimerais que vous l'expliquiez peut-être en quelques mots, cette discipline.
Oui, merci déjà de m'en donner l'opportunité.
Au plaisir.
Très brièvement, c'est un nouvel équipement sportif de proximité qui s'apparente à une table de ping-pong avec un design incurvé sur lequel on pratique plusieurs sports. Et dont le principal message à retenir est de créer du lien, de rassembler les gens et de partager des bons moments autour du bien-être.
Et Jawad, ce projet, il a démarré il y a 6 ans à peu près avec un fort volet innovation sociale. Vous proposez notamment de la formation de jeunes métiers d'arbitre. Mais faut le dire, il y a aussi le volet business. Décrivez-nous un petit peu le modèle économique de Techball France. Comment c'est commercialisé?
Aujourd'hui, en gros, bon, comme vous l'avez dit, je suis issu du sport de haut niveau. Mm-hmm. Et je suis arrivé dans le monde du business sans aucune connaissance théorique, on va dire. Et donc, j'ai tout appris sur le terrain. Mais le fait d'avoir développé certaines qualités pendant ma carrière de sportif m'a permis, en gros, de pouvoir structurer ça à la manière dont je le souhaitais, tout en me servant de mon passé d'enfant banlieusard, en tout cas enfant des quartiers. Et très rapidement, je me suis dit que pour apporter une innovation dans le sport, aujourd'hui, il fallait passer par les collectivités territoriales de telle sorte à pouvoir promouvoir la chose et rendre accessible l'équipement gratuitement. Donc dans ce sens, j'ai décidé avec mon équipe de mettre en place une stratégie de développement à travers les collectivités pour pouvoir, pas remplacer, mais en tous les cas à minima, venir comme sujet de complément pour les équipements sportifs que vous trouvez actuellement, tels que des tables de ping-pong en béton, les stades, les street workouts, et d'y adosser un volet social, puisque aujourd'hui, je pense que pour pouvoir faire du business dans le monde du sport, il suffit simplement de tendre l'oreille et de voir un peu toutes les problématiques qu'on peut rencontrer et d'arriver avec une réponse. Et donc, dans ce sens-là, on a mis en place donc ce concept-là où, avec un équipement qui est destiné à tous, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a 5 pratiques dessus. Les pratiques sont toutes mixtes, intergénérationnelles et inclusives du fait du design. On a les personnes qui sont en situation de mobilité réduite
qui peuvent participer.
Exactement. Ben, en gros, voilà, on arrive avec cette solution à la problématique de comment recréer du lien, comment donner de la place aux femmes sur le territoire, et comme je vous l'ai dit, de créer du lien social, en gros.
Un lien social qui permet aussi de séduire à l'étranger, puisqu'il y a un volet développement international. La discipline, vous êtes en train de la développer un peu partout dans le monde. Et toujours dans ce volet business, il faut s'adapter au marché. Prenons l'exemple des spécificités africaines pour développer ce business. Aujourd'hui, vous ciblez des pays sur le continent africain ?
Oui, bien sûr. Alors, étant franco-maroco-algérien, vous vous doutez bien que la partie africaine me tient particulièrement à cœur. Mais pour juste préciser mon propos, je vous parlais du concept juste avant. Le concept fait allusion à la pluridisciplinarité d'un nouvel équipement. Là, ce que vous avez évoqué, c'est un sport en particulier qui est la version qui a trait au football. Et étant donné que le football est le sport roi en Afrique, je vous laisse deviner le développement qu'il peut y avoir là-bas. Mais dans ce sens-là, l'idée est de pouvoir, en fonction des spécificités de chaque pays, pouvoir apporter une solution telle que ce que j'ai pu vous décrire sur le développement français.
Une dernière question peut-être, Jawad. Comment va évoluer ce projet aujourd'hui? Vous vous lancez à l'international, vous développez de nombreuses fédérations à travers le monde. Quelle est la suite?
Écoutez, dès le début, l'objectif était d'en faire un sport à portée olympique. Donc je vous cache pas qu'il y a 6 ans, on nous riait un peu au nez par rapport à l'extravagance de nos propos, puisque beaucoup, beaucoup de sports veulent devenir olympiques et on met un certain temps. 6 ans plus tard, et vraiment en gardant la plus grande humilité, je peux vous annoncer qu'on est aujourd'hui un sport éligible aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, que nous avons 109 fédérations, que nous serons en démonstration à Tokyo en 2020, et que je fais tout pour que ce soit le cas aussi en 2024 à Paris, mais aussi et surtout à Dakar en 2026, puisque je crois que les
Jeux Olympiques de la jeunesse.
Voilà, donc voilà en gros le développement.
Un beau développement, de beaux défis vous attendent, Jawad. Merci en tout cas d'avoir témoigné au micro de RFI.
C'est moi qui vous remercie.
Un sport qui se développe, vous connaissiez, j'imagine, de toute façon, cette discipline.
Oui, parce que je connais Jawad, je connais son sport, et je le félicite en tout cas pour le développement qu'il fait avec son entreprise, et ce sport qu'il a créé, le Techball.
Techball, moi je ne connaissais pas, mais c'est toujours bien d'apprendre, et on est là pour ça. Comment faire du sport un levier économique et social? C'est la question du jour, on y répond avec des entrepreneurs qui témoignent. Place tout de suite à Tiwa Savage Koroba, et on revient dans 2 minutes. I know comes life to suffer. If I follow politician, you go hear him for paper. They go call him prostitution. Who no like enjoyment? If money day for pocket, shaping our national budget. Ooh, we go blow up like trumpet. Oh yeah.
watching you, smarting you don't move. You come, they shout only. The money you know work for. Back on my door, you carry overload. Yawade, Igoro, show wale, go wale. Goro back, goro back, goro back, goro back, goro. Oh, ya carry goro back, goro, goro, goro back, goro back, goro. Oh, ya carry goro back, goro back, goro back, goro back, goro. They walk in bamboo, they chop. Tell me till you say you be talk and do, oh God. Tell me what you feel do, do, do. I don't mean to bother you at all. Monkey, they walk in bamboo, they chop. Tell me till you say you be talk and do, oh God. Tell me what you feel do, yeah. Goro back, goro back, goro back, goro back, goro. Oh, yeah, carry ya. Goro back, goro, goro, goro back, goro back, goro. Oh, yeah, carry ya. Goro back, goro back, goro back, goro back, goro. Oh, yeah, carry ya. Goro back, goro back, goro back. Oh yeah, everybody carry or something.
Alors, on dit quoi?
Nos auditeurs sont toujours en ligne avec nous, à l'instar d'Emmanuel, qui est le fondateur et président du Cocody Rugby Abidjan Club. C'est le crack, il est également le fondateur de Smart Sport. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Emmanuel, vous avez créé en 2015 ce club de rugby, d'abord pour les jeunes, avec 6 licenciés au départ, et aujourd'hui vous êtes 165 licenciés. Mais comment on fait pour faire tourner financièrement un club de rugby en Côte d'Ivoire ?
Merci beaucoup de me donner la parole et de pouvoir parler du crack à Abidjan. Alors la première chose que je fais, c'est que je remercie tous les bénévoles et tous les membres du Cocody Rugby Abidjan Club de pouvoir vivre cette aventure extraordinaire, cette aventure humaine et sportive. Et je vous donne un petit peu la réponse à votre question. C'est que pour faire émerger un club, il faut des bénévoles, il faut des amoureux et des passionnés du sport, en l'occurrence le rugby. Et créer une communauté forte qui va à la fois permettre de fiabiliser ce que l'on propose, les entraînements, les tournois, et puis évidemment faire adhérer même les personnes qui ne sont pas directement impliquées. Et du coup, de fil en aiguille, ça crée de l'intérêt et on peut commencer à aller chercher des partenaires et des sponsors.
Comment on les ramène justement? Comment on les séduit? Avec quels arguments commerciaux?
D'abord en faisant. D'abord en faisant, en montrant qu'on a une vision, en montrant qu'il y a des gens qui adhèrent autour de la vision, qui se mettent en marche. Et puis ensuite, la fiabilité de l'action, de la proposition de valeur. Donc c'est des entraînements tous les vendredis, ils se tiennent, les coachs sont là, ils sont formés. Et puis un tournoi, deux tournois, et puis un événement. Et donc de fil en aiguille, ça nous a pris quand même, alors c'est court et long à la fois, mais on est parti de zéro il y a 6 ans. Et puis au bout de la 5e année, on devient un club complet. Et des partenaires nous voient grandir et donc ils ont envie de raconter leur propre histoire avec la nôtre. Et ça devient une histoire assez géniale.
Et Emmanuel, dites-nous, vous avez un budget de 40 à 50 millions de francs CFA pour faire tourner ce club. Est-ce que c'est difficile de réunir cette somme finalement?
Oui, c'est toujours difficile dans nos environnements. Moi, je crois vraiment que... Alors, je suis en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, c'est un pays extraordinaire. Avec plein d'opportunités, beaucoup d'industries, beaucoup d'une économie qui est relativement forte. Et donc, si on fait une proposition, on peut attirer les gens. Et donc, on peut comme ça financer une partie du budget. Une autre partie du budget, c'est tout simplement les adhérents. Et de ce point de vue-là, on est un club qui prône aussi la diversité culturelle et sociale. Et donc, il y a des personnes qui peuvent payer des cotisations, d'autres qui ne peuvent pas. Et donc, c'est aussi ça l'enjeu. De savoir être un club ouvert et inclusif et qui sait accueillir tout le monde. Pour autant, les cotisations sont au cœur de la vie d'un club et il faut savoir aussi financer son budget avec des cotisations parce que tout le monde se sent impliqué. Ça oblige aussi le club à rendre d'une certaine manière de la valeur aux cotisants. Et donc tout ça, c'est des cercles assez vertueux que l'on peut, en tout cas que l'on déploie ici à Abidjan, et on en est très très heureux.
Nous sommes heureux également pour vous. Sylvère, peut-être un petit mot justement sur cet aspect cotisation des clubs. Souvent, ce sont les adhérents qui font vivre leur club, mais c'est dangereux quand on le voit là, par exemple avec le Covid, il y a des cotisations qui sont stoppées net à cause d'une pandémie mondiale. Comment on fait pour avoir un business pérenne sans forcément passer par ce volet cotisation? Et je sais que beaucoup de fédérations passent par cela.
On a aucun modèle aujourd'hui, parce que la Covid et cette catastrophe qui nous est tombée sur la tête et qui est une véritable surprise. Comme l'a dit votre auditeur, aujourd'hui un club, il tient par quoi? Il tient par la bonne volonté des bénévoles, par les cotisations et aussi par les sponsors. Les sponsors sont quoi? Ce sont des petites entreprises, des PME. Et comme les PME ont été gravement et durement touchées par la Covid, eh bien, le financement qu'elles avaient réservé pour les actions caritatives ou pour donner au club, elles vont pas pouvoir les investir. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui pour tous ces clubs comme ce club-là, c'est de ne pas pouvoir boucler le budget parce que les PME ne pourront pas leur donner leur argent. Donc, il va falloir qu'il y ait une solidarité de tous, c'est-à-dire des familles, des entreprises qui, au lieu de donner, je sais pas, moi, 20 000, 30 000 francs CFA, ben, elles vont donner 1 000, 2 000, 5 000 parce qu'elles seront prises par ailleurs. Donc, c'est une solidarité pour maintenir l'activité de ces clubs parce qu'ils sont extrêmement importants pour la cohésion sociale et pour le mieux vivre ensemble.
On va demander justement à Emmanuel en dernière question. Emmanuel, est-ce que justement cette pandémie dont on parle actuellement a fortement impacté les finances du club?
On va dire qu'elles ont reporté un certain nombre de projets. Et donc après, c'est un club, ça se gère, et donc il faut savoir tout simplement arbitrer, arrêter certains projets, les reporter. Mmh. Donc ça nous a un petit peu retardé, mais je pense que tout le monde comprend ça aujourd'hui. Et donc il a fallu faire preuve, et ça nous a fait grandir hein, en termes de gouvernance, de gestion professionnelle du club, de dire bah, attention, là on est face à des décisions qu'on doit prendre, et on doit les prendre comme dans n'importe quelle entreprise. Et donc ça nous, de notre point de vue, ça nous a fait grandir et mûrir. Évidemment qu'on a eu moins d'activités, mais on a su l'expliquer, donc il a fallu aussi communiquer. Donc vous voyez, tout ça, ça contribue à consolider notre légitimité. Mm-hmm. Et pour être positif, c'est que juste ça a contribué pour nous à nous donner une visibilité et une légitimité vis-à-vis de nos sponsors. Et de dire, mais attendez, ces gars-là, en fait, ils sont sérieux, ils savent communiquer, ils prennent des décisions, ils subissent pas une situation donnée. Et donc nous, on a rebondi un petit peu là-dessus. On est dans un contexte un peu particulier, on n'est pas en France, mm-hmm. on est un peu moins touché, on va dire. Et donc, on l'a utilisé de cette manière-là. Et le message pour moi, c'est vraiment que le club est au cœur du modèle, même si la Covid a beaucoup touché, même s'il y a des nouveaux modèles très très business, mais le club a vraiment sa place encore pour générer du business dans le sport. Et on est très heureux. Voilà.
Merci, merci infiniment et bonjour à tous les auditeurs qui se trouvent à Abidjan.
Alors, on dit quoi ?
Une dernière auditrice parce que l'heure tourne. Il s'agit de Margot. Margot, un très beau projet que j'aimerais partager avec nos auditeurs. Bonjour Margot.
Bonjour.
Margot, vous êtes la cofondatrice de Recycling Rugby. Vous recyclez des ballons de rugby usagés ou défectueux pour en faire... Allez, complétez ma phrase, tiens.
Pour en faire de la maroquinerie.
De la maroquinerie. Voilà. Vous faites de l'écologie finalement, mais pas que. Hein. Expliquez-nous un petit peu plus ce projet.
Fait. Alors, notre grand point central, c'est quand le rugby et l'écologie se rencontrent au service de bonnes actions. Mmh. Donc finalement, on ne fait pas que du rugby, on ne fait pas que de l'écologie, on met en place tout un cercle vertueux qui réunit pas mal de paramètres comme de la pédagogie, de la solidarité, de la réinsertion, de la reconversion et de l'humanitaire évidemment. Mmh. Tout ça dans un cercle made in France.
Et où sont vendus ces accessoires de mode?
Alors, pour l'instant, on est sur Facebook actuellement. On vend sur Facebook. Et notre site internet arrive tout prochainement, début juin. Nous devrions avoir notre site marchand avec encore plus de visibilité. Mais pour l'instant, nous sommes sur les réseaux sociaux et on commande via ces réseaux sociaux.
Il y a une vraie chaîne de solidarité qui a été créée, et notamment avec des bénéfices reversés au Cameroun et au Mali. C'est bien cela?
En parallèle. Alors, en réalité, on travaille avec notre parrain qui est Serge Betsen, un ancien international de rugby, qui mm-hmm. est d'origine camerounaise. Mm-hmm. Et notre idée, c'est de faire tout ça pour reverser nos bénéfices à l'ASBA, ça s'appelle l'ASBA, son association, mm-hmm. et qui aide donc les enfants au Cameroun et au Mali pour l'accès à la santé et à l'éducation.
Donc ça, c'est le volet vraiment solidarité. Mais comment va évoluer ce projet? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une association, si j'ai bien compris.
Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous sommes une association, mais à force de prendre de l'ampleur, notre idée est quand même d'évoluer vers une véritable entreprise avec des statuts plus classiques du monde entrepreneurial.
Donc c'est possible. On teste peut-être, je schématise, on va dire, Silver, le cas de Margot. On commence avec une association pour voir un petit peu comment le produit prend. Et ensuite, on évolue le business en faisant une société à part entière, comme ce que veut faire Margot avec une SAS.
Mais c'est ce qui est extraordinaire dans le sport, c'est que tout est possible. Tout est possible, notamment avec un pareil comme Serge. Ça ne m'étonne pas qu'il soit derrière, d'ailleurs, ce projet, Serge Berdsen. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une idée, de la développer avec d'abord du bénévolat, quelques amis, et ensuite en faire quelque chose de pérenne et qui puisse rapporter de l'argent. Le sport, c'est un ensemble, comme je disais au début de cette émission, de possibilités qui vont de la simple association jusqu'à la très très grosse entreprise, société privée comme la NBA. Tout est possible dans le sport et c'est ce qui est fabuleux. Et je félicite Margot pour ce qu'elle fait. Et effectivement, j'ai déjà vu des entreprises qui recyclent des articles de sport comme ça pour en faire de la maroquinerie ou des articles de luxe.
Et d'ailleurs, Margot, la page Facebook de Recycling Rugby, c'est quoi? On aimerait bien voir ces articles et
c'est
les partager.
C'est Recycling Rugby.
Recycling Rugby. Bon, le rendez-vous est donné à nos auditeurs. Merci infiniment. Silver, Henri Cissé, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Il y a un volet peut-être important qu'on devrait peut-être dire en quelques mots, c'est le volet peut-être formation. On a vu tous ces anciens sportifs devenir des entrepreneurs, de bons entrepreneurs inspirants. Vous êtes justement très impliqué au niveau de la formation qui est très importante. Peut-être laisser un message à nos auditeurs à ce niveau-là ou nous dire quelque chose sur ce volet.
Oui, parce que la formation est une de mes activités. Et vous avez vu par exemple Jawad qui témoigne pour le tagball, ben Jawad, pour bien connaître sa démarche et même pour l'avoir un moment épaulé, s'est formé. C'est-à-dire qu'il a décidé, après son activité de footballeur, d'aller se former dans la formation continue. Il y a la formation initiale, c'est l'école, c'est l'université, mais après cela, on apprend tout le temps. Et c'est justement...
Mais il a beaucoup parlé de terrain, est-ce que c'est important?
C'est extrêmement important, c'est-à-dire que pour être efficace et efficient sur le terrain, il faut avoir ce volet formation et être toujours formé, se former en performance pour pouvoir répondre aux attentes du client.
Mais on a le sentiment que les diplômes aussi pèsent beaucoup. Enjeux derrière.
Alors, écoutez, il faut pas cracher sur
ce papier-là, ce bout de papier.
Il faut pas cracher sur les diplômes parce qu'ils sont extrêmement importants. C'est ce qui aussi sanctionne la connaissance. Mais il faut pouvoir s'en dégager aussi. Ça ne doit pas devenir un carcan, une prison. Il faut pouvoir s'en dégager. Et ceux qui sont intelligents, je trouve, ce sont les donneurs d'ordre qui ont besoin du diplôme, mais qui savent le dépasser. Mmh. Et ceux qui sont intelligents aussi, c'est ceux qui ne s'arrêtent pas à leur diplôme, mais qui continuent à se former tout le temps, toute la vie. Il faut continuellement apprendre, et c'est comme ça qu'on pourra justement créer de la diversité, de la richesse, et pouvoir vivre tranquillement et sereinement.
Ça sera le mot de la fin. Je trouve que c'est parfait pour conclure cette émission. Alors, on dit quoi? Merci infiniment à Silver Henri Cissé d'avoir participé à cette émission. Peut-être, oui, attendez, juste un mot sur Junior et le sport, ce petit ouvrage. On a une toute petite minute pour conclure dessus. Quelques mots là-dessus, je viens d'y penser.
Très clairement, c'est une éditrice il y a 2 ans qui m'a demandé d'écrire des livres pour enfants tirés d'un dessin animé qui marche très bien à la télévision française, qui s'appelle Junior. Junior est un petit garçon qui habite dans une ville imaginaire d'Afrique qui s'appelle Fafrica. Et avec sa bande, il va vivre des aventures extraordinaires. Le premier volet, c'est Junior à Dakar. Mm-hmm. Le deuxième, c'est Junior fait du sport. Et le troisième, c'est Junior à Kigali. C'est Langage du Sud. Mais réinvitez-moi, je vous en parlerai.
Ah, avec grand plaisir.
Beaucoup de la littérature jeunesse, avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis encore une fois ce samedi. Vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Alors, on dit quoi sur RFI? Merci. Merci bien entendu à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Daba, Mariam, Guillaume, Benoît et toutes les personnes qui m'aident au quotidien. Oubnone Ragongol, à bientôt.
Peut-on encore sauver les...